Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Les professionnels des bars, restaurants et hôtels du 04 ont tenu leur assemblée générale à Gréoux. Le secteur se relève après des mois compliqués. Reportage dans ce magazine. Dispositif d'accompagnement des jeunes pour une aide numérique, les promeneurs du net ne sont cependant pas assez connus. Le reportage d'Odile Frison à Digne. Les associations familiales des Alpes de Haute-Provence recherchent des bénévoles pour le dispositif Lire et faire lire. L'interview d'Alain Ferretti qui préside l'UDAF 04 dans un instant. Belle histoire d'amitié et de musique démarrée au collège de Laragne. Les petits potes sortent leur premier CD avec un clip vidéo à la clé. Chris Alessandri les a rencontrés. À Briançon, Elsa Giraud évoque l'histoire du ski autour d'un café. L'idée est originale et elle fait recette. Dans son dernier roman, Les Racines tordues, Claude Rouge entraîne le lecteur à la recherche du temps passé. Interview à la fin de ce magazine. Restaurants, cafés et hôtels durement impactés par le Covid.
À la restauration et à l'hôtellerie, il faut ajouter les discothèques dont les fermetures liées à la crise sanitaire ont été longues, parfois fatales pour certains établissements. Car en plus des fermetures contraintes et des ouvertures sous conditions, c'est aussi la fuite des salariés saisonniers ou non qui a pénalisé le secteur. Sans oublier le remboursement des prêts garantis par l'État qui ont amorti la crise mais qu'il faut honorer, même si Bercy a rallongé ses délais. Cependant, la situation s'améliore, un été convenable et des vacances de Toussaint très positives. La profession remonte la pente, mais par rapport à 2019, année sans Covid, une baisse de 10% est encore perceptible. Parmi les aides de l'État, l'activité à temps partiel et des fonds dédiés ont également joué à plein. La profession est consciente qu'il faut rendre plus attractifs les emplois de ceux qui travaillent tard le soir ou le week-end quand les autres sont de repos. Salaires, charges et pourboires occupent l'esprit des professionnels, de même que les primes d'intéressement ou des facilités de logement ou de garde d'enfants. Accueillis à Gréoux par le maire Paul Audan et leur président d'honneur Jean-Claude Rodolfi, les membres de l'UMI 04, l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, affiche une belle unité. À l'issue des travaux, le président Thierry Souêtre et la directrice des finances publiques, Isabelle Godard de Vaujany, ont évoqué la situation et les aides aux professionnels. Thierry Souêtre, vous présidez l'UMI 04. Comment se porte le secteur actuellement ?
Mais disons que par rapport à ces deux années passées par rapport au Covid, la reprise a été faite à partir du mois de juin. On a fait dans l'ensemble une bonne saison. Certaines très bonnes, dans certains coins du département ça a été une grosse fréquentation. Nous avons jusqu'à cette période de la Toussaint encore bien travaillé et je pense qu'au niveau des stations de ski, il y a de bons présages.
Vous avez également enregistré un nombre croissant d'adhérents, c'est curieux.
Tout à fait. Je pense aussi c'est parce qu'on est resté ouvert que beaucoup de syndicats étaient fermés. On a travaillé en relation étroite avec les services de l'État, donc les services des finances publiques, les services de l'URSSAF, avec qui on a eu des échanges soutenus et nous avons pu résoudre ensemble tous les problèmes qui se posaient à nos adhérents et non adhérents, parce qu'on a communiqué avec les non adhérents aussi. On a les messages et tous les textes de loi qui apparaissaient, on les communiquait. Et je crois que le travail paye. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut être à l'écoute et c'est pendant ces 6 mois de fermeture, on était là. Je me suis déplacé plusieurs fois parce qu'il y avait des situations un peu compliquées aussi chez certains de nos ressortissants. Dans l'ensemble, on est arrivé pratiquement à résoudre tous les problèmes qui nous étaient posés.
Avec également deux problèmes principaux, les questions liées au recrutement des salariés salariés, et puis évidemment le remboursement des prêts garantis par l'État, autrement dit le désendettement des entreprises.
Alors pour le remboursement des PGE, je pense que voilà, ça on va renégocier. C'est vrai que le directeur de la Banque de France nous a dit que tout n'a pas été consommé, parce que beaucoup ont pris le PGE en prévision que le Covid allait durer un peu plus, donc tout n'a pas été consommé. J'ai bon espoir qu'avec les banques, on trouve un accord. Bien sûr, ce ne sera pas 10 ans, mais disons que si on pouvait le porter entre 5 et 7 ans, ce serait pas mal. Avancer de 2 ans l'échéance, ce serait pour la profession un progrès. Mais il faudra, bien évidemment, c'est un prêt, il faudra le rembourser.
Et pour les recrutements, il faut rendre les postes plus attractifs.
Alors là, on va faire des assises donc à notre congrès national, à étudier toutes les pistes sur l'attractivité dans nos professions. J'avoue que ça va être assez compliqué. Il va falloir donner du temps à notre personnel pour les fidéliser, donner des week-ends. Il y aura aussi, bien évidemment, le côté financier, mais je ne pense pas qu'il y ait que ça. Ce serait trop simple. Bien sûr, on aura nos partenaires, on aura des accords avec l'État. Il faudra négocier avec sur les charges sociales pour augmenter le SMIC et plus encore. Mais il faudra aller sur des pistes pour garder notre personnel et ça, c'est pas ça, je crois que ça va être un peu le plus compliqué à mettre en place. Voilà, dans certains établissements comme les chaînes, ils étudient en ce moment 4 jours de travail, 3 jours de, on est sur des pistes comme ça.
Il y a également les primes à l'intéressement, et ça, c'est inclus dans la loi Pacte. À nos côtés, la directrice des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence, Isabelle Godard de Vaujany, le gouvernement et la France a mis la main à la poche, en fait, pour suite à la crise.
Oui, tout à fait. Les mesures qui ont été prises très très rapidement, hein, dès l'identification de la menace inédite qui était ce virus, les mesures de confinement ont été prises et elles ont beaucoup affecté, bien sûr, la profession hôtellerie, restauration, café. Pour être à la hauteur de ces enjeux et pour permettre à ces entreprises qui sont, et dans notre département, absolument fondamentales, hein, un département touristique comme le nôtre, cette économie repose beaucoup sur l'hôtellerie, café-restauration. Donc le gouvernement a mis en place des mesures très très rapidement pour soutenir et permettre à ces entreprises de passer cette vague de difficultés. Petit à petit, le fonds de solidarité qui a été au départ réservé aux petites entreprises et notamment à notre tissu des cafés, hôtels, restaurants locaux, ces aides ont été plus ciblées et les montants ont été largement augmentés. Donc les fonds de soutien pour notre département représentent en tout, toutes professions confondues, 129 millions d'euros. Et parmi ces 129 millions d'euros, il y en a un peu plus de 53 millions qui ont bénéficié à notre secteur de l'hôtellerie, restauration, café. C'est la catégorie professionnelle qui a le plus été soutenue, mais parce qu'elle en avait besoin. Quand on vous demande tout à coup, très rapidement, de fermer votre établissement, vous avez vos salariés, vous avez vos stocks, vous avez tout simplement votre raison d'être, hein, bientôt, pour la plupart, qui s'arrête brutalement. Ça n'est pas rien. Donc il fallait vraiment faire quelque chose. Sur ce point, mon administration, mes services se sont totalement mobilisés. Nous avons même mobilisé au-delà des services dans ma maison qui s'occupent traditionnellement des entreprises. Nous avons mobilisé d'autres agents dont c'était pas forcément le travail au quotidien de s'occuper des entreprises, mais qui ont été très vite formés. J'ai recruté aussi 2 auxiliaires pour traiter le plus vite possible ces aides et distribuer le plus vite possible ces aides. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on voit que par rapport à d'autres pays européens, notre pays a le plus soutenu son économie et nous n'avons quasiment aucune liquidation ou procédure collective qui a frappé à cause du Covid notre tissu économique.
Et particulièrement les Alpes de Haute-Provence.
Et dans les Alpes de Haute-Provence, où nous avons un tissu avec quelques grosses industries qui portent en effet une grande partie du chiffre d'affaires, mais nous avons essentiellement, en nombre d'entreprises, un tissu de PME et de toutes petites entreprises, dont des cafés, hôtels, restaurants, qui font un travail de qualité, qui avaient vraiment besoin d'être soutenus. Et là, je crois qu'on a tous profité du déconfinement. Les clients sont revenus, on a envie de passer du bon temps et on a tellement de belles entreprises dans ce secteur, dans ce département, qu'il faut s'en réjouir.
Un autre sujet qui a été évoqué ici même lors de l'Assemblée Générale de l'UMI, c'est le pourboire par carte bleue. C'est une nouveauté. Vraie bonne idée ou vraie fausse idée?
Alors en fait, le pourboire... Je suis pas forcément la mieux placée pour apprécier le montant des pourboires qui souvent ne sont pas forcément déclarés. Mais les pourboires, c'est lié aux espèces. Évidemment, quand on paye en espèces, on arrondit et on laisse un pourboire. Or, vous le savez comme moi, les espèces ont tendance à être de moins en moins utilisées. Les clients payent beaucoup maintenant par carte bleue. Comment laisser un pourboire quand on n'a pas forcément de la monnaie dans sa poche et qu'on paye l'addition par carte bleue ? Donc il était nécessaire d'adapter, si vous voulez, le mode de collecte de ces pourboires au nouveau mode de paiement, parce que petit à petit, les serveurs et les serveuses voyaient bien qu'ils avaient de moins en moins de monnaie sur le bord de la table quand le client partait. Donc c'est peut-être plus une adaptation au mode de paiement qu'une nouveauté. Mais en tout cas, le but, c'est de relancer la pratique du pourboire.
Les promeneurs du net proposent une aide numérique aux jeunes.
Un dispositif gratuit d'aide numérique a été mis en place par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, sur le plan national depuis quelques années et dans les Alpes de Haute-Provence, il existe depuis 2017. Sept structures ont signé une convention de partenariat avec la CAF pour conseiller et accompagner les jeunes dans le monde du net et notamment vers les réseaux sociaux. Odile Frison a interviewé le directeur adjoint de la CAF, Guillaume Moncourtois, puis le coordinateur départemental des promeneurs du net, Louis Boulabas.
Guillaume Moncourtois, vous êtes directeur adjoint de la CAF. Quelques mots sur ce dispositif qui est donc mis en place par la CAF, Promeneur du Net.
Oui, effectivement, le dispositif Promeneur du Net est un dispositif qui existe maintenant depuis 2017 au sein du département. Dispositif qui a bien évolué, qui est assez dynamique. Juste, je rappelle deux chiffres. 80% des jeunes de 11 ans à 17 ans vont sur le net tous les jours. Près de la moitié vont sur les réseaux sociaux. Donc il est très important, dans le regard de ces chiffres, de pouvoir les accompagner, de les sensibiliser les risques associés aux réseaux sociaux, parce que c'est un outil formidable, mais qui porte aussi quelques risques. Et les promeneurs du net sont là justement pour accompagner, informer, sensibiliser tous les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Ce matin, on a présenté le dispositif auprès de différents partenaires et d'autres partenaires qui pourraient être intéressés. Actuellement, je rappelle, il y a 7 structures qui sont dans le dispositif, qui ont conclu donc une convention avec la CAF, 7 structures et 8 promeneurs du net. Aujourd'hui, c'était le moment de rappeler ce dispositif et puis de sensibiliser d'autres partenaires qui pourraient passer une convention avec la CAF. Donc, en tant que directeur adjoint de la CAF, je suis très heureux de la mise en place et de ce suivi de ce dispositif. Peut-être laisser la parole au coordinateur, la DSEA 04, qui pilote avec la CAF ce beau dispositif.
Louis Boulabas, vous êtes coordinateur départemental des promeneurs du net dans le 04.
Oui, les promeneurs du net, c'est 8 promeneurs professionnels de la jeunesse qui travaillent sur le territoire du 04, sur différents territoires, Sisteron, Digne, Manosque, Château-Arnoux-Saint-Aubin et Fort-Calquier.
Donc aujourd'hui, c'était une réunion avec des professionnels et de nouveaux partenaires. Comment ça se passe ?
En 2017, on était parti sur l'idée de construire un noyau solide de promeneurs pour ensuite pouvoir du coup développer l'action et notamment augmenter le nombre de promeneurs sur le 04. Donc effectivement, l'année 2022 verra normalement l'arrivée de nouveaux promeneurs du net. Donc actuellement 8, mais on sera un peu plus en 2022.
C'est 8 personnes ?
Tout à fait, c'est 8 personnes identifiées comme promeneurs du net qui sont des professionnels de la jeunesse qui travaillent dans différentes structures liées à l'accompagnement de la jeunesse et des familles. Il y a des informateurs jeunesse, des éducateurs, des animateurs, des responsables d'animation. L'idée, c'est de travailler en réseau pour accompagner les jeunes et les familles sur les questions du numérique.
Alors justement, comme ça existe depuis 2017 dans le département, il faut être adhérent. Comment ça se passe pour les jeunes, puisque ça s'adresse aussi aux parents ?
Alors les promeneurs du net vont vers les jeunes sur des espaces numériques. Donc on pense tout de suite aux réseaux sociaux. Ça peut être aussi des sites internet. On est dessus, on y va, donc on crée un compte. Sur ce compte-là, chaque promeneur est identifié avec sa photo, son nom et son prénom, le nom de sa structure. Il y a aussi le logo des promeneurs. Sur le visuel, du coup, on peut voir toutes ces informations-là, ce qui fait que le public, les jeunes, peuvent venir parler, solliciter chaque promeneur sur ses réseaux sociaux.
Donc, le jeune s'inscrit aussi ?
Pas d'inscription, c'est gratuit. Sur les réseaux sociaux, il va du coup entrer en contact avec le promeneur, ou ça peut être le promeneur qui rentre en contact avec le jeune, suivant les situations. Chaque promeneur du net est à l'écoute du jeune, que ce soit pour une demande, un besoin, un projet, et essaye de répondre au mieux à la sollicitation du jeune.
Est-ce qu'on peut avoir des cas concrets, des jeunes qui font appel à un promeneur du net? C'est pour se confier sur des problèmes de harcèlement?
Ça peut être des problèmes, malheureusement, d'harcèlement. Du coup, les promeneurs du net sont là aussi pour apporter une réponse. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est tout simplement un jeune qui habite dans un village un petit peu isolé et qui est rentré en contact avec un promeneur du net de Manosque pour demander si, sur la ville de Manosque, il existait des salles pour enregistrer des images et faire du montage vidéo. Donc là, c'était l'occasion pour le promeneur de l'orienter vers la MJC de Manosque ou d'autres structures qui sont en mesure d'accueillir son projet. Un deuxième exemple, c'était un jeune qui nous racontait ses difficultés du moment à se connecter sur le réseau Parcoursup. Un jeune qui disait qu'il était à bout de solutions et un petit peu à bout de nerfs par rapport à cette situation-là. Situation angoissante pour lui. Et du coup, le fait de rentrer en lien avec le promeneur, ça a permis de désamorcer un petit peu la situation et de l'aider à s'inscrire et à recevoir les réponses de cette plateforme Parcoursup.
Ça peut être aussi simplement des notions informatiques qui peuvent manquer ?
Alors, on peut travailler sur ça. Il y a des organismes qui existent sur les territoires plus spécialisés, disons, dans les compétences informatiques. Les promeneurs du net, ça répond sur le territoire à des demandes ou à des besoins de jeunes en travaillant en lien, en les orientant vers les bonnes adresses, les bonnes structures qui sont plus spécialisées. C'est toujours dans la continuité du boulot. Mon boulot, c'est éducateur spécialisé, donc je vais renseigner le jeune. Après, je suis pas informaticien. Je vais plutôt accompagner le jeune dans sa demande à l'amener vers un dispositif qui est spécialisé dans l'informatique.
Est-ce qu'on peut faire un bilan depuis 2017 à 2021 du nombre de jeunes qui ont fait appel aux promeneurs du net?
Alors, un bilan quantitatif, c'est compliqué sur les réseaux. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des interactions numériques sur les réseaux sociaux qui ne donnent pas forcément lieu à des rencontres physiques et inversement, des rencontres numériques qui donnent des lieux à des rencontres physiques pour travailler le projet avec le jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des jeunes, comme dans tous les dispositifs promeneurs du net de France, dans d'autres départements, ce sont principalement des jeunes qui connaissent déjà les promeneurs sur leur territoire. Soit parce qu'ils sont déjà publics de la structure, soit parce qu'ils ont assisté, ils ont vu déjà le promeneur dans d'autres circonstances, dans d'autres événements villes ou au territoire dans lequel il y a déjà eu une interaction. Voilà. L'idée, c'est bien d'avoir ce contact-là avec les jeunes, de garder ce lien et d'être source, repère, quand il y a besoin pour les jeunes.
Est-ce que c'est généralement individuel ?
Tout à fait, ça peut être des demandes individuelles, des interactions individuelles avec un jeune ou une famille, mais ça peut être aussi collectif. Les réseaux sociaux, de par définition, sont censés rassembler les gens et les mettre en interaction, voilà, les mettre en dynamique. Et donc du coup, ça peut être un outil que l'on peut utiliser dans des projets collectifs, dans des actions collectives, en mettant en place des groupes dans les réseaux sociaux ou des groupes privés où on va inviter seulement les jeunes concernés par le projet et de se servir des réseaux sociaux comme un outil de communication plus rapide et plus efficace pour travailler ensemble. Il y a un site national promeneurdunet.fr sur lequel vous allez trouver dans le 04, à la page 04, vous allez trouver les 8 promeneurs du net avec leurs coordonnées par territoire, où tout est renseigné, leurs fonctions, leurs structures, leurs numéros de téléphone, leurs réseaux sociaux, et vous allez pouvoir du coup en un clic aller sur leur réseau et commencer à discuter avec eux ou en tout cas se mettre en lien avec eux. Pour bénéficier du dispositif des promeneurs du net, c'est gratuit.
Christine Borel travaille à Fort-Calquier et a rejoint les promeneurs du net. Elle évoque son rôle et regrette que ce dispositif ne soit pas utilisé par l'éducation nationale. Pour elle, être promeneur du net, ce n'est pas un travail, mais plutôt une vocation.
Je suis Christine Borel, coordinatrice à la Maison de la Famille à Fort-Calquier et je suis maintenant promeneur du net depuis 4 ans. Le matin, j'arrive au travail, j'allume mon ordinateur, j'ouvre ma boîte mail et j'ouvre mon compte Facebook, Christine Borel, promeneur du net. Et je reste connectée toute la journée et lorsque j'entends un petit ding qui me dit j'ai un message sur le Facebook, j'y vais. Être promeneur du net, c'est une réelle volonté d'être présent sur les réseaux sociaux, accompagné par la structure, parce qu'on ne peut pas être promeneur du net si notre structure ne nous libère pas des temps de présence sur les réseaux sociaux.
Quel est le type de questions que vous avez?
Alors, je peux avoir des questions comme « Où puis-je m'adresser pour trouver un soutien en tant que parent pour mon enfant qui est problème d'école, par exemple, du harcèlement, tout simplement d'aller chercher un renseignement, où est-ce que je peux trouver un cours de français, ou alors quels sont mes droits en tant qu'usager d'Internet, quels sont mes droits, donc je peux les diriger vers des structures qui sont à même à leur donner Voilà, parce que promeneur de lunettes, je le répète, n'est pas un métier, mais une vocation.
Donc ça vous demande à vous des connaissances, évidemment, une formation pour ça ?
Oui, tout à fait. On est formé tout au long de l'année par la CAF, par la CNAF, qui, eux, dédient des temps de formation et qui sont très, très utiles pour nous, promeneurs du net.
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir beaucoup ou des fois de n'avoir aucune demande ?
Oui, voilà, c'est aléatoire. Hein. Un jour, je peux avoir 3 heures de communication avec des familles ou un individu. Et le lendemain, avoir aucun sting qui me rappelle que je suis promeneur du net. C'est vraiment aléatoire, quoi.
Et vous pensez que dans le département, c'est assez connu
Je pense qu'il n'y a pas assez de communication sur les promeneurs du net, notamment dans l'éducation nationale, où le public est là. Et on ne va pas forcément le trouver si on n'y va pas, nous, en promeneur du net, faire des actions. Voilà, je pense qu'il manque quelque chose à faire au niveau de la communication.
Est-ce que ça vous est arrivé de vous trouver en difficulté ?
Alors oui, ça m'est arrivé de me trouver en difficulté devant un phénomène, une action, quoi, où je ne savais pas que faire, parce qu'en fait, c'était en dehors de mes heures de travail. Donc, il était 7h30 du soir, en fait. J'avais le portable du travail. Je me suis dit, je fais quoi ? Je réponds. Donc, j'ai répondu. Et en fait, je me suis retrouvée à être jusqu'à 11h du soir avec cette personne. Mais ça fait aussi partie du fait que je suis promeneur du net. Et je ne suis pas promeneur du net que dans mon temps de travail. Je suis promeneur du net aussi en dehors. Voilà. Les seules difficultés que j'ai eues, c'est à savoir, est-ce que je dirige bien la personne vers les bonnes structures ? Et grâce à ces formations-là, j'ai un peu plus d'assurance.
Dans le 04, lire et faire lire, recherche des bénévoles.
Créé par l'écrivain Alexandre Jardin, Lire et faire lire est un dispositif qui permet à des personnes de 50 ans et plus d'animer des temps de lecture pour les enfants de la crèche jusqu'au collège. Un double intérêt, ouverture à la culture et activation d'un lien intergénérationnel. Coordonné par l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, dans le 04, l'action a connu un ralentissement important à cause des confinements et des contraintes sanitaires. L'UDAF 04 invite toute personne intéressée et disponible à rejoindre son équipe pour renforcer la dynamique de lire et faire lire. C'est ce que précise son président, Alain Ferretti, qui fut administrateur de l'Association nationale à ses débuts. Alain Ferretti, vous présidez l'UDAF 04. On peut rappeler les missions essentielles de l'UDAF ?
Alors, les missions de l'Union départementale des associations familiales, c'est donc représenter l'ensemble des intérêts matériels et moraux des familles, gérer tout service d'utilité familiale, dont la gestion nous est confiée par les pouvoirs publics, ester en justice, ce qui s'est jamais fait, mais qui pourrait arriver s'il y avait un fait familial important, dont l'UDAF pourrait être partie prenante. Ensuite, nous avons un certain nombre de services, services de protection juridique des majeurs, nous avons un service d'aide, comme des services d'animation, lire et faire lire, du soutien scolaire, la gestion du réseau d'écoute et d'accompagnement et d'appui aux parents, un certain nombre d'actions d'accompagnement des associations pour qu'elles puissent se développer, trouver de la ressource, se mettre en réseau éventuellement. Et ensuite, nous avons un certain nombre de représentations, évidemment, la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie, au niveau des services de santé, au niveau des centres communaux d'action sociale, des communes, etc., où nous pouvons porter la voix des familles de façon tout à fait officielle. Et l'UDAF, souvent, par ses représentants, c'est ce que j'appelle, moi, la voix du bon sens.
Vous êtes donc une interface entre les citoyens et les pouvoirs publics.
Absolument. Pour tout ce qui concerne la vie quotidienne des familles, oui.
Vous avez évoqué l'opération Lire et faire lire que vous connaissez bien puisque vous l'accompagnez au niveau national depuis sa création. Où en est-on dans les Alpes de Haute-Provence ?
Alors évidemment, oui, j'étais un des dirigeants bénévoles de Lire et faire lire depuis des années. Évidemment, j'ai voulu que ça se développe dans les Alpes de Haute-Provence. Et il y a une belle progression puisque c'est tout à fait noble l'action de lire et faire lire. C'est-à-dire, c'est la façon pour des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont retraités ou autres, de donner un peu de temps et de passion du livre à des groupes d'enfants qui sont souvent de 5 à 8 maximum et qui permettent d'ouvrir le plaisir de la lecture. Alexandre Jardin a été un des pionniers. Ça fait plus de 20 ans que Lire et faire lire est sur le département et au niveau national dans de nombreux départements, avec la Ligue de l'enseignement également. Et dans les Alpes-de-Haute-Provence, ça fonctionne très bien puisque beaucoup de collectivités sont importantes. Après, évidemment que la crise sanitaire a un peu coupé les bénévoles du milieu familial, des milieux d'enseignement, puisque c'est souvent dans les écoles, dans les crèches, dans les collèges, dans les instituts spécialisés, etc. Mais on entend reprendre dès cette année le fil d'une mobilisation importante de toutes les bonnes volontés pour donner quelques heures, pour donner la passion de lire du livre à des enfants.
Si on veut vous rejoindre, comment ça se passe?
Eh bien, vous appelez l'UDAF, Sandrine Berger, qui est notre référente, et qui pourra évidemment vous inscrire, vous expliquer, vous former, pour permettre donc que vous puissiez intervenir dans une école, dans une crèche, dans d'autres lieux où sont des enfants ou des élèves, et travailler aussi avec la communauté éducative et les professionnels pour donner un peu de votre temps et de votre passion à quelques petits groupes.
Alain Ferretti, avec toutes ces années d'engagement auprès de Lire et faire lire, vous avez certainement une anecdote à nous raconter.
Et même deux, si vous voulez, puisque une des premières, c'est vraiment le courage, la volonté, la motivation d'Alexandre Jardin à soulever des montagnes ou à déplacer des montagnes pour mobiliser la France entière pour les enfants. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on pensait qu'on ne pouvait lire qu'à des élèves qui savaient déjà lire et écrire. J'ai beaucoup poussé pour que, par exemple, dans des crèches, dans des lieux de petite enfance, dans des lieux de parentalité ou dans des centres aérés, on puisse aussi transmettre la passion de la lecture. Et ça a eu beaucoup de succès puisque c'est les premiers lieux où l'évolution de Lire et faire lire est la plus importante.
Rap entre amis, ça fait du bruit.
Cette histoire commence au collège de Laragne-Montéglin et se poursuit en musique et en images. Le groupe Les Petits Potes s'est formé entre élèves lors d'ateliers scolaires sur la vidéo et l'image et par la suite, pris au jeu par l'ambiance de la création artistique, Marion et Zacharia, accompagnés d'une dizaine d'étudiants et leur surveillant, Charlie, ont décidé d'un commun accord de se lancer dans la composition musicale, l'enregistrement d'une maquette et au final, la réalisation d'un clip vidéo. Une belle aventure pour ces jeunes et leurs surveillants qui se retrouvent, l'aventure, dans un message d'optimisme et d'amitié autour d'un projet qui vient de prendre vie avec dernièrement la sortie d'un premier CD, d'ici et d'ailleurs, accompagné du clip vidéo. Les petits potes en musique, au micro de Chris Alessandri.
Give me that smile, alright, 'cause we are in town. Crowds all around, please give me that love. Keep it moving on. You got the sun in your soul. Oh, please come on.
Alors, on est un groupe d'amis qui s'est formé au fil des projets. On s'est rencontrés au collège, on était tous des élèves et Charlie notre surveillant. On l'a retrouvé ensuite en tant qu'animateur et on est devenus ensuite amis au fil des projets.
Alors Charlie, comment peut naître comme ça cette complicité avec ce futur groupe qui va se créer?
C'est assez particulier en fait. On s'est rencontrés, j'étais surveillant et on a déjà cette complicité, elle est née depuis un premier projet de vidéo, audio-vidéo. On a fait un premier clip ensemble et il y a quelque chose qui est passé déjà entre nous dans l'énergie. Et ensuite, on s'est retrouvés quelques mois plus tard. J'étais animateur dans une autre structure et ils sont venus, la même équipe, un noyau. Ils étaient une douzaine, arrivés avec porteur d'un projet, initiateur d'un projet vidéo, de court-métrage. Et je les ai aidés, je les ai accompagnés dans ce projet. Et en fait, j'ai pris part au projet et on est devenus amis. Et on a quitté du coup toute structure pour se retrouver. On a gardé le lien. Sur le précédent projet, on a semé une autre idée. On commençait à semer une autre idée de projet, donc de vidéoclip, avec une chanson. Voilà, cette complicité, elle demeure. Et la création qu'on fait en ce moment même, elle est à l'image de notre amitié. Et du coup, voilà, c'était bien pour moi de lâcher toutes les casquettes et de m'adonner complètement au groupe des petits potes. Et puis en casser un peu cette image de grande personne que je pouvais avoir à l'époque, un peu plus âgée.
Je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qu'on a ressenti tout de suite au collège. Vraiment avec le premier clip avec Charlie. On était tous ensemble, on s'est bien amusé à faire ce clip. Puis on s'est retrouvé dans notre structure avec Charlie en tant qu'animateur. Avec le court-métrage où chacun donnait ses idées. On a vraiment créé une ambiance soudée tous ensemble. Et là avec le groupe des petits potes, encore plus. On s'est retrouvé plusieurs fois sur ces deux dernières années. Même s'il y a eu le Covid qui nous a un peu bloqué. Chacun partageait ses idées, participait à la création de ce projet de A à Z. Avec l'aide de Charlie et de Edwige Bouffquin. On a eu aussi d'autres... entre guillemets extérieur. Par exemple, on a fait des prises au drone avec Cédric, avec son entreprise La Passion du Drone, le Cinéma Phoenix aussi, qui nous permet de montrer le projet final au cinéma.
On a aussi le soutien du coup du studio du label Durance, studio ECS à Château-Arnoux. C'est Studio Lamy qui est le label Durance. On a eu la chance il y a 2 ans de rencontrer Capucine Olivier et Alain Soler, qui font partie de l'équipe et qui nous ont proposé un prix très abordable pour le mixage et mastering de la chanson du produit final. Et c'est vrai qu'ils nous ont permis de réaliser ce rêve-là, de concrétiser ça et de lancer la fabrication CD pour sortir le single de cette chanson.
Le groupe Les Petits Potes, alors pour les identifier, qu'est-ce qu'on voit dans le clip?
Alors déjà, ce qui nous définit bien, je pense, c'est notre joie de vivre et notre détermination, parce que comme l'a dit Zach, on a eu le Covid qui nous a coupé et on a quand même continué. Et le message qu'on veut faire passer à travers notre musique, c'est qu'il faut toujours avoir de l'espoir, être heureux et qu'on a la joie de vivre, tout simplement. Et le clip reflète bien les paroles de notre chanson. Je pense qu'on est tous un peu polyvalents. On est chanteurs, on a écrit les paroles, on a fait des ateliers d'écriture pour les trouver. Tout le monde a participé à tout, on a été derrière la caméra aussi, et on a également été devant. On a tous donné des idées.
Je pense que d'avoir autrefois réalisé un court-métrage tous ensemple et d'avoir été tout le groupe, d'avoir été derrière la caméra et ensuite devant, vous avez déjà cette expérience-là. Et pour le clip, ça a été beaucoup plus aisé de le faire parce qu'en fait, on l'a fait en journée. Parce qu'avec une situation sanitaire, on a trouvé juste deux dates valables pour pouvoir faire l'enregistrement et le clip. Donc ça a été très dense.
Le clip, c'est tout un travail, vous l'avez bien expliqué. Effectivement, il faut complètement rentrer dedans. Mais comment traduire en image les paroles? Alors comment vous avez fait et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on voit?
Alors déjà, on voit souvent le groupe ensemble. On voit aussi les rapports qu'on a entre chacun. On voit aussi des choses un peu déjantées parce qu'on est un peu déguisés en fait pour ce clip. Voilà, on voit tout simplement notre joie de vivre, on a tourné des images dans l'eau aussi, dans plusieurs décors qui montrent aussi un peu la région en fait, de là où on vient aussi, parce que c'était important.
Il y a beaucoup de souvenirs que je garde de ces heures de tournage, même d'écriture. Vraiment la cohésion du groupe, vous voyez que ça faisait longtemps qu'on se connaissait, que vraiment ça passait vraiment entre nous tous bien. À chaque prise, on s'amusait à rigoler tous ensemble.
Ouais, l'ambiance des petits potes, c'est une ambiance enfantine, je pense que c'est un peu ce côté on ne veut pas se prendre au sérieux, on ne veut pas grandir trop vite. Moi je pense que comme je suis plus âgé, comme disait Marion très récemment, c'est une manière de garder jeune, même si je perds bien mes cheveux, c'est pas grave. Mais oui, je pense qu'on garde cette voix un peu d'enfant, de grands enfants. On fait circuler ça à travers ce clip. La chanson s'appelle Ici et d'ailleurs, c'est le projet, puis le clip, c'est éponyme. Cette chanson, Ici et d'ailleurs, c'est peu importe en fait la joie de vivre, elle est ici comme ailleurs, elle est pour tous, et on la souhaite pour tous, en fait, à travers ça.
La sortie officielle du CD single et du clip se fait au cinéma Phoenix. Ensuite, il sera possible de retrouver notre clip et notre chanson sur les réseaux sociaux.
Et il sera également possible d'écouter la musique sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer. On tape les petits potes du 27 sur tous les réseaux Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver également le clip. On se dit à la prochaine.
Au revoir.
J'y suis d'ailleurs, va pas chercher. Ouais, tous bourrés de talent et d'imagination.
On refait le monde
à notre façon.
Animation originale à Briançon, le café histoire du ski.
La démarche mérite attention. découvrir l'histoire du ski des communes des Hautes-Vallées autour d'un café. Implanté et développé pour des raisons militaires, le ski a fait évoluer la société et les mentalités montagnardes, puis la création des stations d'hiver a transformé l'économie haut-alpine. Les ingrédients d'un café histoire du ski, l'ambiance cosy d'un établissement convivial, une boisson et la besace du skieur. Réunis autour de l'historienne Elsa Giraud et d'une paire de skis des années 30, les participants découvrent à tour de rôle les trésors cachés dans la besace. Ainsi, une photo de skieur des années 1900, une reproduction d'article de journal, un plan d'architecte, un cartouche de fabricant de skis, etc. Chaque objet lance la conversation et raconte un pan de l'histoire du ski de 1900 à nos jours. Une saga haut-alpine qui se dévoile dans une ambiance sympathique. Elsa Giraud, historienne, répond aux questions de Laura Giraud.
Elsa Giraud, vous êtes historienne. On va parler de vos cafés que vous avez mis en place, les cafés Histoire du Ski. Qu'est-ce que c'est ?
L'idée, elle est partie déjà du fait que ça fait plusieurs années que je fais des recherches sur l'histoire du ski dans les Hautes-Alpes. Et c'est un thème qui est plus facile à illustrer avec de l'image. C'est plus facile de le raconter avec de l'image et moins en visite guidée. Habituellement, je fais des visites guidées. Mais le patrimoine du ski, visible ici dans les Hautes-Alpes, il est assez rare pour la première partie du XXe siècle. Et c'est justement moi la période 1900-1950 qui m'intéresse énormément. Par ailleurs, je travaille sur les stations, donc l'histoire plus récente, la création des stations à partir des années 30. Mais je voulais montrer aussi les débuts du ski et toute une période qu'on a oubliée aujourd'hui, durant laquelle le ski a rendu des services. C'était pas un loisir en priorité, mais c'était également moyen d'aller faire ses courses, moyen d'aller à l'école, etc. Et comme je commençais à avoir pas mal de documents, de photos, de cartes postales anciennes, de plans, d'archives écrites, d'enregistrements oraux aussi, eh ben, je me suis dit, le moyen de valoriser ça, c'est peut-être de faire un café histoire. Et donc, le but, c'est, j'ai par exemple à Névache un partenariat avec des chambres d'hôtes, des auberges qui nous accueillent dans un endroit, un salon un peu cosy. Les gens commandent leurs boissons, donc, puisque c'est un café histoire. Et moi, j'assure la partie histoire, mais sous une forme conviviale, c'est-à-dire que j'arrive avec une vieille paire de skis des années 30 et j'ai la besace du skieur. Et en fait, la besace du skieur, elle va passer de personne en personne et chacun, à tour de rôle, va sortir un objet de la besace. On va découvrir l'objet ensemble et les gens peuvent poser leurs questions, regarder ça de près, etc. Et donc, j'ai essayé de varier un peu les objets, il y a de la photo ancienne, les cartes postales, mais il y a aussi cartouches probablement du tout premier fabricant de ski des Hautes-Alpes, fabricant indépendant, un particulier qui était en Gapensé, du nom de Zana. J'ai de très belles archives des plans de Vars, par exemple, mais ça peut être aussi Montgenèvre. Et puis, je vais également montrer des photos anciennes. Et puis, il y a des petites surprises, donc on pourra entendre des récits sur ces débuts du ski dans les années 30, par exemple du côté de la Monta, de là. Donc, le but, c'est vraiment de faire un rendez-vous convivial. On n'est pas nombreux, c'est 10-12 personnes. Et le but, c'est d'avoir plein d'images à regarder de près et plein d'objets.
Ces cafés Histoire du Ski se dérouleront du 15 novembre au 8 avril 2022. Il faut réserver.
Oui, dans le sens où 15 novembre, il n'y a pas de programme chaque semaine. C'est un peu tôt, hein, c'est pas encore la saison. Si on veut me réserver pour une date ponctuelle, un rendez-vous pour une famille ou un groupe d'amis, les gens peuvent me contacter. Donc, on peut faire ça tout l'hiver, effectivement. Et il y aura des rendez-vous réguliers durant l'hiver 2022, à partir de février, à au moins fin mars. à Névache, avec donc en partenariat la chambre d'hôte La Joie de Vivre et des auberges dont j'attends la réponse, donc il devrait y avoir la découverte, et puis également le Creux des Souches.
On pourra retrouver ces dates sur votre site ?
On pourra retrouver ces dates sur mon site. Si une famille, un groupe, veut un café histoire du ski chez lui, eh ben ils n'ont qu'à me contacter et on organise ça n'importe où, du moment que la famille ou la tribu d'amis a une résidence en Briançonnais, en Kéra, en Guillesse 3, vient avec ma besace, avec ma paire de ski, et on organise ce café histoire du ski sur mesure.
On va rappeler comment vous contacter.
Me contacter, ça peut être le numéro de téléphone 06 61 76 58 45. Ça peut être via ma page Facebook de l'atelier d'histoire d'Elsa Historienne en sous-titre de la page. Si tout simplement vous pouvez taper Elsa Giraud Histoire sur Google et vous allez forcément tomber sur mon site internet, sur ma page Facebook. C'est très facile de me trouver. Également, physiquement, vous vous rendrez dans n'importe quel office du tourisme, en Kéra, en Guillesse 3, en Pays des Écrins, en Briançonnais, et vous devriez avoir mes coordonnées sans problème.
Une publication de Claude Rouge, Là où poussent nos racines.
Claude Rouge est un artiste multicarte. Auteur, compositeur, mais aussi interprète et comédien, il suit sa route en partageant ses réflexions avec ses lecteurs. Ainsi, dans Les Racines tordues, son dernier roman, publié aux éditions Jet d'encre, il les entraîne dans un univers familial, patrimonial, autant que minéral et végétal. Emmerich, le personnage principal, a été marqué par l'éducation humaniste et ancré dans la terre de son grand-père que tous appellent le mémé. Sur la terre austère des Cévennes, il va vouloir retrouver ses racines et attirer sa compagne Charlène, très citadine, et Bernard, un ami étrange, pour un changement de vie plutôt radical. Pas facile de se faire accepter dans ce village reculé, avec des ruraux bas de plafond et qui semblent être enraciné dans un rejet et une haine de l'autre. Comprenez l'inconnu, l'étranger, celui qui n'est pas d'ici. Avec une fin très sombre que je ne dévoilerai pas, mais qui pimente ses racines tordues, en fait familières à bon nombre d'entre nous. Récemment installé dans les Alpes de Haute-Provence, Claude Rouge a évoqué les racines tordues pour Fréquence Mistral. Claude Rouge, nous allons parler des racines tordues. Et d'abord ce nom, les racines qui sont à la fois végétales, mais humaines dans votre livre.
Oui, c'est la question centrale du roman, qui tourne autour d'une interrogation, enfin d'une double interrogation. La première, c'est en quoi nos racines influent-elles le cours de nos vies ? Est-ce une fable qu'on se raconte, ou est-ce qu'il y a une réalité derrière cette affirmation ? Et la deuxième interrogation, c'est qu'est-ce qui peut bien expliquer que, apparemment, aujourd'hui, de plus en plus de gens, notamment des générations assez jeunes, se tournent vers leurs racines et vont s'installer à proximité de l'endroit où ils sont nés. Est-ce que c'est un prétexte pris pour fuir une vie dans laquelle ils se retrouvent de moins en moins, ou est-ce qu'il y a un fondement réel par rapport à l'attachement aux racines ?
Et des racines qui sont tordues également comme les racines végétales. Et c'est le cas de vos personnages, Emmerich notamment, le personnage principal, qui recherche les sensations qu'il a eues avec son grand-père.
Oui, c'est ça. Pendant 11 étés, ses parents, plus pour s'en débarrasser que pour d'autres raisons, l'ont placé, on peut presque dire ce mot-là, hein, chez ses grands-parents, qui habitaient dans un mât perdu dans les Cévennes, qui s'appelle Haute-Combe. Chaque été, le grand-père emmenait l'enfant faire une balade au Crêt, un petit mont au-dessus de la ferme. Et arrivé en haut, le gamin était émerveillé par ce qu'il voyait à l'horizon. Et le grand-père, le mémé, lui disait « Non, mais c'est vrai, c'est beau ce qu'il y a au loin, mais ce qui compte, le plus important, il n'est pas là, il est à tes pieds, regarde bien, C'est ici que se trouvent tes racines et cela, il ne faudra jamais l'oublier. Et c'est 11 fois pendant son enfance où il entend ce discours-là, fait que le jour où le grand-père décède, dans l'église, au moment de la cérémonie, il se sent le devoir de dire quelque chose. Mais il n'ose pas le faire parce qu'il sait que le reste de la famille va mal le prendre. Donc il ne dit rien et quelques jours plus tard, quand ils sont réunis pour la succession, au grand dam de tout le reste de la famille, il annonce qu'il veut acheter la maison et la récupérer, alors qu'il n'a pas d'argent, mais il ne fait rien, c'est trop fort. Et à ce moment-là, il ne sait pas vraiment pourquoi. Et tout le livre a tourné autour de cette question, pourquoi il a pris cette décision.
Alors les rapports avec son grand-père sont particuliers, vous l'avez dit, il s'appelle Mémé, alors que normalement c'est à une femme qu'on accole ce diminutif affectif, et d'autant plus que lui s'appelle Émeric, mais que son grand-père n'arrive pas à prononcer, donc il appelle Éric. Et en fait on est dans une représentation qui est vraiment très superficielle, et le plus important sont les racines.
Oui, ce qui va marquer Émeric, ce qui va s'inscrire en lui, c'est bien l'environnement rural, forestier, toute cette confrontation à la nature. On ne sait pas où se passe son enfance, mais on imagine que ça se passe en ville. Donc c'est une des questions. Quel est le sens? Est-ce que c'est cette découverte de la nature, cette confrontation à la nature qui va graver en lui quelque chose? Est-ce que c'est les racines en tant que telles, tel que le grand-père les évoquait, ou est-ce que c'est le ras-le-bol de la vie qu'il mène et l'envie de trouver un endroit où aller ailleurs, et là l'occasion se présente et il la saisit.
Avec en plus un personnage assez emblématique, c'est son ami Bernard, il va lui apprendre à faire par exemple une dalle en béton, où il découvre aussi son corps à l'occasion. Et puis il y a un autre personnage magnifique, c'est Charlène, sa compagne, qui elle fera un cheminement incroyable. On s'attache à Charlène.
Oui, lorsque j'ai terminé l'écriture du roman, j'étais convaincu que le personnage principal c'était Émeric. Quelques semaines plus tard, à la réflexion, je me suis dit que c'était peut-être bien Charlène. Mais je ne voudrais pas en dire trop, parce que pour inviter les lecteurs à aller découvrir le livre et le rôle de Charlène, et aussi celui de Bernard. Alors, Bernard, c'est incroyable, parce que c'est comment... Alors là, j'en viens sur l'écriture, quoi. Comment un personnage comme ça va apparaître dans un roman? Enfin, eh bien, tout simplement parce que quand j'écris... La cérémonie des obsèques à l'église, les obsèques du mémé, hein. Je me dis, il peut pas y avoir 6 chaises. Il y en a forcément 7. 6, ça fait 3 fois 2, 6, les enfants avec leurs conjoints, quoi. Donc je dis, non, il faut qu'il y en ait 7. Mais qui on met sur la 7e? Et donc je mets Bernard, voilà. Et je ne sais pas qui est Bernard. Simplement, et voilà. Et en fait, il va jouer un rôle clé dans l'histoire, quoi. Alors lui, il vient de nulle part. Ça ramène un petit peu aux racines. Quand on parle d'une famille, on évoque tous les assemblages, les liens, les arbres généalogiques, etc. Alors que lui, il est là, venu de nulle part, et qui a toute une place importante dans le roman. Et c'est ça, ça interroge sur qui on est, en quoi la famille est structurante ou pas, comment on devient quelqu'un avec le rôle qu'on joue par rapport aux autres, etc., quoi.
Et puis il y a un autre élément aussi à la fin de votre livre, c'est un migrant qui débarque et qui va un petit peu chambouler cet ordre déjà pas très harmonieux et qui va se retrouver dans des situations particulières dans cette zone rurale. Claude Rouge, vous signez souvent vos romans et vous rencontrez vos lecteurs?
Oui, donc Les Racines Tordues, c'est mon 5e roman. Tous ont un point commun, c'est qu'ils tournent autour d'une thématique sociale forte, thématique sociétale forte. Et pour moi, le livre vit à partir du moment où il suscite un échange avec le lecteur ou avec les personnes que je rencontre sur un salon du livre ou invité par une médiathèque ou à travers les ondes d'une radio. Pour moi, c'est le sens de l'écriture. Le livre, comme ça, posé sur une étagère, lu de manière anonyme par plein de gens, c'est important. Mais pour moi, le sens profond du geste d'écriture, c'est de permettre la rencontre avec le lecteur. Et dans le 2e roman que j'ai écrit, qui s'appelle Choc frontal, et qui évoque l'histoire d'un gars très humaniste, athée, en milieu rural, et dont la fille un jour annonce qu'elle se convertit à l'islam. Et donc Choc frontal, les témoignages que j'ai recueillis par les échanges dans des salons du livre, dans des rencontres diverses et variées, auraient pratiquement fait le contenu d'un 2e livre. Et moi, ça m'a enrichi énormément. Et je pense que le livre, probablement, enfin, je vais être modeste, mais enrichit un peu le lecteur. Mais les retours que j'en ai eu derrière, c'est fantastique. Et c'est pour moi là que se trouve le sens principal du geste d'écriture.
Je rappelle que vous habitez depuis peu dans les Alpes d'Haute-Provence, très exactement autour de Bannon, qui est très célèbre dans le monde des livres grâce au Bleuet. Et vous nous ferez signe, évidemment, lorsque vous aurez une dédicace et une signature à effectuer. À bientôt.
Merci pour votre accueil et puis bonne lecture des Racines tordues.
Pour clore ce magazine, François, une triste nouvelle nous est parvenue en début de semaine.
Oui, Olivier, nous avons appris la disparition de Marie-Françoise Brunel, déléguée départementale de la Fondation du patrimoine dans les Alpes de Haute-Provence. Médecin de profession, elle était une militante ardente de nos territoires et bien sûr du patrimoine. Ses interventions à nos micros étaient toujours pertinentes et traduisaient ses engagements avec conviction et élégance. Ces dernières années, son attention et son énergie pour des vestiges à sauver la conduisaient à Ongles, Montlot ou au fort de Tournou, sans oublier un temps fort, la remise de l'Ordre national du mérite en 2018 à Digne par son confrère neuropsychiatre et ami qui fit son internat dans le chef-lieu du 04, un certain Boris Cyrulnik, un moment inoubliable. À l'annonce de son décès, de nombreux élus, la préfecture de Digne et bien sûr la Fondation du patrimoine, tous ont exprimé leur tristesse et également leur reconnaissance pour le travail accompli. À sa famille et ses proches, nous présentons nos condoléances. Marie-Françoise Brunel, une grande dame, nous a quittés. Nous n'oublierons pas son engagement et son sourire. Merci, madame.